E-Radio et Confrontation Europe présentent 30 idées pour l'Europe de 2030. Michel Derdevet.
Bonjour Michel Derdevet.
Bonjour Laurence Bron.
Nous allons parler aujourd'hui d'une constitution européenne pour renforcer la démocratie européenne.
Et oui, en effet, dans le chapitre premier du livre 30 idées pour 2030 que Confrontation Europe vient de publier, le juriste Dominique Rousseau, qui est un professeur émérite de droit constitutionnel à Paris 1, fait un vibrant plaidoyer pour l'adoption d'une constitution pour l'Union européenne. Alors, il considère que la rédaction d'une telle constitution serait une étape essentielle à la formation d'une collectivité de citoyens. En cela, le moment constituant s'apparente, de son point de vue, à un grand moment démocratique de discussion, de débat entre tous les acteurs de la société pour définir, comme il le désigne, l'ordre politique désirable. Les peuples européens ont besoin, selon lui, de ce moment de société afin de resserrer leurs liens et d'asseoir leur volonté d'avancer ensemble dans une union politique sans cesse plus étroite. De plus, l'adoption d'une constitution permettrait, selon ses vues, la consécration d'un ensemble d'institutions qui contribuerait à l'établissement d'un véritable gouvernement démocratique européen. Il s'agirait ici, dans un mouvement de démocratisation des institutions, de repenser les schémas électifs du Conseil, les compétences du Parlement européen ou encore de créer éventuellement une Cour constitutionnelle européenne liée aux organes politiques. Pour conclure et prendre comme référence Victor Hugo, Dominique Rousseau appelle à ce jour fameux où l'Europe viendra, ce jour où toutes les nations du continent, sans perdre leur qualité distincte, fonderaient dans une unité supérieure la fraternité européenne.
En quoi, Michel, la rédaction et l'adoption d'une constitution pour l'Europe répondraient effectivement au déficit démocratique relevé?
Je crois, Laurence, qu'à l'approche des élections européennes, les tensions sur le futur du projet européen, elles sont palpables. Et les clivages s'articulent souvent autour de la notion de légitimité. Or, quelle meilleure légitimité que de celle qui vient du peuple, celle qui émane de l'ensemble des citoyens européens? Si le fonctionnement historique des communautés européennes correspond bien au contexte qui a venu avec le projet, il faut forcément de constater aujourd'hui le fait qu'il y a une vraie différence entre les compétences dévolues par les États membres à l'Union et la légitimité de leur exercice qui est encore en possession des représentants étatiques. Et de là, deux visions se posent. D'un côté, les différentes figures du populisme, de plus en plus fortes en Europe, souhaitent replacer les compétences européennes là où se trouve la légitimité et appellent de fait à un retour de certains pouvoirs dans le giron des États membres. De l'autre côté, les partisans d'une Europe toujours plus politique appellent, eux, de leur vœu l'établissement d'une représentativité plus forte du peuple européen au sein des institutions. C'est ce dernier point de vue qui est le point de vue de Dominique Rousseau, qui estime, par exemple, que, je le cite, « pour qui soutient l'idée d'une Europe politique, le renouvellement du gouvernement européen est une exigence qui impose que l'Europe se dote enfin d'une constitution ». Pour mémoire, Laurence, si on revient sur l'histoire politique française, le 9 juillet 1789, c'est un peu le même moment qui a marqué notre histoire politique, puisque les États généraux se sont ce jour-là proclamés assemblées constituantes. Et donc c'est un peu la proposition que fait Dominique Rousseau, c'est qu'on profite de ce moment démocratique d'élection du nouveau Parlement européen pour transformer petit à petit cette assemblée en assemblée constituante. La réflexion qui amènerait à l'adoption d'une telle constitution pour l'Europe permettrait sans doute de nommer, d'identifier cette collectivité de citoyens. Et très clairement, il ne suffit pas sans doute aujourd'hui d'en appeler à une Europe politique pour que celle-ci magiquement se concrétise. Il nous faut réfléchir, débattre, discuter, puis consacrer sans doute notre volonté sans cesse renforcée d'une collectivité de destin. En cela, le processus constituant apparaît comme une évidence, car il permettrait d'institutionnaliser cet imaginaire commun, et le texte final serait alors la conclusion juridique de ce débat politique.
Quelle institution nécessiterait d'être repensée afin d'accroître la légitimité démocratique de l'Union européenne?
Si l'on vise un gouvernement démocratique européen qui s'inspire des institutions actuelles, il faudrait sans doute raffermir, quelles que soient les institutions, leur lien avec le peuple européen. Par exemple, une proposition particulièrement intéressante serait d'instaurer une deuxième chambre au niveau du Parlement européen. La première, c'est celle que nous allons élire du 6 au 9 juin prochain, élue au suffrage universel direct. Et ce Parlement européen représente les citoyens européens par un scrutin organisé sur la base d'un principe proportionnel tous les 5 ans. Il y aurait une deuxième chambre qui, elle, pourrait représenter les États membres, chaque État désignant 4 représentants. Donc ce Parlement repensé disposerait alors de 3 compétences principales. La première, élire un Premier ministre européen dans une logique qui se rapproche fortement de celle des régimes parlementaires. Deuxième compétence, voter les lois. Et troisième compétence, contrôler l'action du gouvernement. Cette assemblée élue pourrait alors manifester sa méfiance à l'égard d'un gouvernement en votant une motion de censure qui devrait comporter le nom du nouveau Premier ministre proposé. Cette proposition transcrit une logique essentielle que nous souhaitons retrouver dans l'Europe du futur, c'est celle d'un Parlement européen au rôle repensé, car, faut-il se le rappeler, c'est le seul aujourd'hui véritable représentant du peuple européen en tant que tel.
Que répondriez-vous à ceux qui estiment que l'Europe n'a pas besoin de constitution, que nous devrions apprendre de l'échec du traité établissant une constitution pour l'Europe de 2005
Simplement que si l'être historique européen existe, malheureusement les Européens aujourd'hui en 2024 n'en ont pas conscience, ne le voient pas, car fondamentalement, il ne leur a jamais été présenté. Au contraire, les fractures, les déchirements, les antagonismes entre Européens qui nous divisent sont présentés comme irréductibles. Donc, contre cette vision entretenue d'une fragmentation insupportable et insurmontable des mémoires nationales, l'écriture d'une constitution européenne permettrait sans doute de rendre visible le patrimoine des valeurs partagées et, à partir de là, de constituer le socle à partir duquel les Européens se représenteraient et refonderaient leurs institutions communes.
Merci beaucoup Michel Derdevet, on vous retrouve la semaine prochaine.
Merci Laurence, à bientôt.
Euradio et Confrontation Europe vous ont présenté 30 idées pour l'Europe de 2030. À retrouver dès maintenant en podcast sur les sites web et réseaux sociaux d'Euradio.